This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
Radio Free Radio Rosana de Paris.
Madonna Radio Globo.
From CNN Radio 7.
Na Radio Dasha.
O Brasil quer se filmar.
Turquia, foto, Slava, Reci.
Bonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui à Strasbourg. Éric Valmire toujours en direct du Parlement européen. Aujourd'hui, la politique migratoire de l'Europe. La fabrique du nouveau monde passe par la Chine avec Dominique André. Nous ferons également un point sur la situation à Ferguson aux États-Unis. Frédéric Carbone en direct dans quelques minutes. À 18h55, l'édito d'Alain Frachon sur la visite en France demain du président égyptien Sisi. Mais tout de suite, le Vatican, le pape, la diplomatie.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Le pape François.
La più parte si recava un'impressione generale di stanchezza, di invecchiamento, di un'Europa nonna e non più fertile e vivace.
Réveiller cette grand-mère qui est devenue l'Europe, cette Europe qui n'est plus féconde et vivante mais fatiguée. Le pape François s'est décidément trouvé les mots, des mots qu'on n'imagine pas a priori dans la bouche d'un souverain pontife. On va y venir en détail. Mais ce qui se passait du côté des eurodéputés était également intéressant. Des applaudissements nourris, vous les avez entendus, pour saluer une parole humaniste, généreuse, portée par le respect pour le prochain, une parole critique à l'égard des ravages de l'économie. Applaudissements donc, alors que certains de ces députés voteront exactement sur des valeurs inverses. Une fois le pape reparti, il est d'ailleurs reparti, il a fait une conférence de presse dans l'avion qui le ramenait en Italie. Réflexion donc sur cette visite éclair en France et sur celle qui se prépare en fin de semaine en Turquie, avec ici en studio Jean-Louis Schlegel. Bonsoir.
Bonsoir.
Revue Esprit, philosophe, sociologue des religions. Et Anaïs Feuga, notre correspondante à Rome, qui elle a fait aussi l'aller-retour dans la journée. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Nicolas.
Quelle était l'atmosphère, dites-nous, dans le gigantesque hémicycle strasbourgeois? Vous avez tweeté la photo d'un minuscule point blanc vu de très très loin et de très très haut. C'était le pape qui s'adressait à un parlement bourré à craquer, hein, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça. Bah, effectivement, c'était comme ça. Alors il était tout droit dans sa soutane blanche, là, au milieu de cet immense hémicycle. Effectivement, j'ai compté quelques sièges qui étaient vides, mais enfin, dans sa grande majorité, l'hémicycle était plein. On a eu un discours très long, 40 minutes, avec des applaudissements, alors tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt tout le monde ensemble. Et puis, à la fin du discours, un long applaudissement, quasiment une minute, tous les eurodéputés se sont levés, se sont mis debout. En revanche, sur le parcours entre l'aéroport et le Parlement...
Il n'y avait personne, là.
Il n'y avait personne. C'était assez frappant parce que c'est la première fois que je vois ça, surtout avec le pape François. Il y a toujours une foule immense. Là, il n'y avait personne. Le pape a dû voir à peu près deux fois plus de policiers et de gendarmes que d'Alsaciens. Alors, il y avait quand même quelques petits groupes de 10 ou 20 personnes. Ouais. Alors, à cela, il y a plusieurs explications. Bon, la zone était bouclée apparemment. Et puis, le pape a bien insisté sur le fait qu'il ne venait pas à Strasbourg, mais qu'il venait aux institutions européennes. Ouais. Il l'a même dit d'ailleurs dans l'avion du retour. Hein. Il a dit aller à la cathédrale de Strasbourg, ça aurait impliqué forcément une visite en France et ça devenait problématique. Sur le parvis devant le Parlement, les organisateurs avaient prévu la présence de 2500 personnes. Franchement, il y avait quelques dizaines de fidèles.
Quelques douzaines de journalistes peut-être. Dites-nous Anaïs, le ton du discours, là on en a diffusé juste une petite seconde, vous l'avez trouvé comment? Offensif, calme, serein, langue de bois entre guillemets, quel ton avait le pape François aujourd'hui?
En fait, un peu sans surprise, je trouve qu'il est revenu sur des thèmes qui lui étaient chers et qu'il a déjà évoqués. Alors, il a parlé de la globalisation de l'indifférence. C'est vrai que c'est un terme qu'il avait employé pour la première fois à Lampedusa. Il parle aussi de la culture du déchet. Hein. Il en parle souvent, de ces jeunes sans travail ou bien de ces vieux qu'on laisse tomber, de la mentalité de consommation excessive. Il a fait un long paragraphe aussi sur les migrants. Il a dit on ne peut pas tolérer que la mer Méditerranée devienne un grand cimetière. Et puis là-dessus, il a mis un peu l'Europe devant ses responsabilités. Hein. Il a dit l'absence d'un soutien réciproque au sein de l'Union européenne risque d'encourager des solutions particularistes aux problèmes. Mmh. Il a dit que l'Europe devait mettre en acte des législations adéquates qui sachent en même temps protéger les droits des citoyens européens et garantir l'accueil des migrants. Il a dit qu'il fallait agir sur les causes et non seulement sur les effets. Enfin, là-dessus, il a été assez offensif. Ouais. Et puis, il est... Euh, il a, il a,
Il a bien cogné quand même. Hein, il a bien cogné sur l'Union européenne.
Mais en fait, sa dérive bureaucratique.
Voilà, sur cet aspect-là d'une espèce de momie totalement hors du temps. Enfin, il y était pas allé de main morte. Hein.
Oui, mais en même temps, les dirigeants de l'Union européenne l'avaient un peu mis en garde. Ils ne voulaient pas justement un discours trop plombant en se disant que l'Union européenne n'avait pas besoin de ça en ce moment. Il n'a pas été complètement négatif. C'est-à-dire que quand même, dans la fin de son discours, il dit qu'il faut que l'Europe ne tourne pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine. Et puis il a dit que le moment est venu d'abandonner l'idée d'une Europe effrayée pour susciter et promouvoir une Europe porteuse de sciences, d'art, de musique, de valeurs humaines. Enfin, voilà, il a appelé aussi les Européens à revenir aux fondamentaux des pères fondateurs.
Ouais. Alors, Jean-Louis Schlegel, comment avez-vous reçu le discours du pape ? Anaïs, vous restez évidemment avec nous. Hein. Comment avez-vous reçu le discours du pape ? Comment avez-vous reçu ces mots et le ton que décrivait Anaïs Feuga à l'instant ?
Oui, alors, je les ai lus intégralement tout à l'heure. Puis j'en ai écouté une partie ce matin. Moi, je dois dire que je les ai quand même ressentis effectivement un petit peu comme une répétition de beaucoup de choses qu'il avait déjà dites. Simplement, on a une synthèse là de ce que le pape François pense, dit depuis un certain temps.
Il fait alors, François Hollande, quoi,
voilà,
la synthèse.
C'est un petit peu... Alors, disons, moi, je trouve toujours... C'est peut-être une impression un peu de sociologue que j'espère non indifférente tout de même. C'est... Ces discours d'une très haute morale ou d'une très haute exigence morale sont quand même en même temps des discours d'exigence morale envers l'Église. Hein, c'est-à-dire elle-même, du coup, se trouve placée devant des exigences, des défis. Et justement, on voit quand même que quand l'Église a un certain nombre de problèmes, il y a une très grande sévérité envers elle. Hein. Alors je pense évidemment aux prêtres pédophiles, mais aussi au fond à un certain nombre d'absences... ou d'oubli par moment.
Ce problème-là, il l'a pris à bras-le-corps dès le début.
Alors on se dit, évidemment, dans la situation actuelle, rappeler encore une fois avec des mots forts le problème de l'immigration, hein, en Méditerranée par exemple, on peut toujours se dire que ce n'est pas inutile qu'une voix au-dessus de toutes les voix européennes des nations s'élève et le redise. En particulier en direction d'un certain nombre d'Européens qui ne sont quand même pas très sympathiques pour les immigrés. C'est presque une litote hein, quand je dis ça.
Et le fait qu'il ait cogné si fort sur l'Union européenne grand machin bureaucratique ayant perdu, et je cite encore une fois ces mots, connaissant l'affaiblissement vital d'une construction donc européenne qui fut fondée d'abord sur l'amitié. Enfin, les paroles et les critiques étaient lourdes, politiquement lourdes. Il n'est pas eurosceptique, mais il est eurocritique.
Hein. Je trouve, effectivement, là, je me demande si ce n'est pas l'une des premières fois qu'un pape critique la bureaucratie européenne, quand même. Hein.
Ça, oui.
C'est vrai, hein, cette espèce de grande machinerie qui a été mise en place. Mais qu'est-ce qu'elle produit, finalement
Elle produit une sorte de désenchantement, semble-t-il dire.
Un désenchantement immense, même, hein, effectivement. Et puis aussi, quelque part, toujours, un affaiblissement moral, finalement. Hein, puisque l'Europe, vous l'avez dit tout à l'heure, une fois le pape parti, l'Assemblée, le Conseil va prendre ses décisions en ayant totalement oublié ce qu'il a dit, très probablement. Enfin, même plus que certainement.
Ça Éric Valmire va nous le raconter tout à l'heure, puisque justement, le Parlement débattait d'immigration après le pape.
Oui, mais sur le côté mamie, en tout cas, moi je me demande si ce n'est pas un petit peu un petit coup de pied, non pas de l'âne, certes, mais du latino ou de l'autre continent. C'est-à-dire, je me demande si ce n'est pas le sentiment qu'ils ont. C'est-à-dire qu'effectivement, nous le savons bien, il suffit de voyager un tout petit peu dans ces tiers-mondes. Nous sommes tous frappés par la jeunesse incroyable de la population dans les métropoles que nous visitons. Et je pense que lui, c'est quand même son image à Buenos Aires. Et je me demande s'il ne dit pas quelque chose d'une impression vraie, là. C'est-à-dire, c'est l'impression des autres continents, des continents du Sud, par rapport à nous. C'est-à-dire que c'est vraiment un continent fatigué,
vieillissant,
de touristes du troisième âge, j'allais dire, qui visitent d'ailleurs ces pays-là. Je me le demande. Hein.
Donc vous l'avez trouvé à la fois critique, il a critiqué également l'opulence de l'Union européenne, dans une critique qui ressemblait très fortement à celle qu'il adressait au Vatican lui-même, qui avait oublié tout de même sa raison d'être.
Je pense que, si vous voulez, ce genre de discours, il faut toujours acquérir une légitimité quelque part pour le tenir. Alors, il y en a un qui a eu cette légitimité au moins pendant une grande partie de son pontificat, c'est Jean-Paul II. Hein, le superman de Dieu, je ne sais pas, super athlète des années 80, star des médias, enfin des choses de ce genre-là. Et donc, il avait acquis une espèce de légitimité personnelle. Ça a été beaucoup plus difficile pour Benoît XVI, qui du coup a beaucoup rappelé les racines chrétiennes de l'Europe, s'est beaucoup occupé de presque de respiritualiser l'Église et des choses de ce genre-là. Alors lui, j'ai l'impression que sa légitimité viendra des changements qu'il parviendra lui-même à faire à Rome. On l'attend tout de même là-dessus, non pas, disons, sur des exhortations à ce que les catholiques redeviennent plus catholiques, qui fréquentent davantage les églises, mais effectivement à sa capacité de changer. J'ai quand même, là, pour le coup, aussi un vieux machin bureaucratique.
Mais ça, il l'a dit tout de suite, hein, en arrivant aussi.
La dernière monarchie européenne, tout de même. On l'attend là-dessus.
Il n'a pas évoqué, effectivement, Jean-Louis Schlegel, les racines chrétiennes de l'Europe.
Alors, il les a évoquées, mais presque pas comme telles. Il parle quand même, dans un des deux discours, il a quand même un assez long passage sur les racines. Hein. Mais, effectivement, vous avez raison. Je trouve quand même que ça n'a pas été une très grosse insistance de son discours. Et du reste, moi, j'ai été frappé, à un moment donné, ce matin surtout, il a parlé pendant presque 10 minutes de la transcendance. Il n'a pas dit Jésus-Christ, il n'a pas dit l'Évangile. C'est comme s'il appelait tous les Européens contemporains d'aujourd'hui à dire « Attention, hein, vous êtes dans l'immanence jusqu'au cou, jusqu'au coude, mais il y a une... Rappelez-vous, quoi, il y a peut-être une transcendance qui donne du sens à votre immanence ou quelque chose de ce genre-là. Là où je pense, effectivement, probablement, enfin, je ne peux pas préjuger, mais quand même, c'était un peu ça. Benoît XVI aurait tout de suite rappelé, il l'a beaucoup fait, les racines chrétiennes de l'Europe, l'oubli des racines qui nous rend quasiment orphelins. Il n'a pas tenu exactement ce discours-là, je suis d'accord avec vous.
Alors écoutez au micro d'Anaïs Feugat comment le père Lombardi, qui est porte-parole du Vatican, décrit la diplomatie et le poids politique du Saint-Siège et du pape François.
Non è un capo
le pape n'est pas un chef d'État politique avec des pouvoirs militaires et économiques et des intérêts politiques particuliers. Mais la présence du pape dans le monde des organisations internationales est celle d'une grande autorité reconnue au niveau international, mondial, depuis des siècles. Les institutions, les États eux-mêmes, dans leur grande majorité, souhaitent avoir des rapports diplomatiques et des représentants auprès de cette autorité. Nous avons un corps diplomatique près le Saint-Siège qui est le fruit des États qui ont souhaité avoir des rapports avec le Saint-Siège.
Anaïs Feugat, vous qui vivez à Rome et qui regardez de très près ces questions qui touchent au Vatican, est-ce que vous pensez qu'il y a de la part du pape François une volonté de réinventer ou d'écrire une nouvelle page de la diplomatie du Saint-Siège ?
Ce qu'on observe en tout cas, c'est que, par exemple, très concrètement, aujourd'hui, il s'exprimait devant le Conseil de l'Europe. On s'attendait à une déclaration sur la Russie et l'Ukraine. Et il n'en a pas dit un seul mot. Hein. Enfin, il a vaguement parlé d'hégémonie. Il a fait tout un long discours sur la paix. Mais enfin, il a parlé aussi des conflits internes à l'Europe encore actuellement. Mais il n'a pas vraiment cité du tout le problème de l'Ukraine et de la Russie. Idem, quand on était en Corée du Nord, il a pas condamné le régime nord-coréen. Alors que, bon, il y aurait de quoi dire. Je ne pense pas qu'il y ait un changement de l'orientation de l'Église par rapport à ses prédécesseurs en termes de relations avec les États ou de diplomatie. Je veux dire, l'Église a toujours le même point de vue. Mais à propos de François, on parle plus de la diplomatie du geste. C'est-à-dire le geste de fraternité. Alors, on se souvient de ce geste devant le mur des Lamentations avec ses amis argentins, donc le rabbin et puis son ami musulman, cette embrassade. En revanche, aujourd'hui, dans l'avion, il est revenu aussi sur ces histoires de terrorisme et de terrorisme d'État. Alors, il a introduit cette nouvelle notion de terrorisme d'État qui, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, tue aussi des victimes innocentes, mais il n'a pas précisé non plus
de quoi il parlait exactement. C'est une déclaration mystérieuse.
Oui, et puis toujours le point de vue aussi, c'est s'il y a une intervention qui doit se faire, c'est toujours sous l'égide des organisations internationales. C'est pas une nation qui peut décider d'elle-même de faire une intervention.
Comment décririez-vous, Jean-Louis Schlegel, le pouvoir politique du pape s'il existe ?
Moi, je trouve que sous Jean-Paul II, on disait parfois qu'il y en a un seul qui a le droit de faire de la politique dans l'Église, c'est le pape. Mmh. Parce qu'il avait interdit pratiquement à tout le monde, aux prêtres et aux évêques en particulier, d'avoir une action politique dans leur pays. D'une certaine manière, ça reste vrai. On voit bien que dans cette affaire, pour l'instant en tout cas, il ne fait pas appel du tout aux structures de l'Église, on pourrait dire aux évêques. Il a un tout petit peu parlé du rôle des évêques européens, mais ce n'était rien du tout. On voit bien que lui seul mène la barque de ce côté-là aujourd'hui. C'est toujours cette espèce de côté pyramidal extrême dans l'Église catholique.
Mais est-ce qu'il a un pouvoir au sens, pas d'autre mot que politique.
Non, sincèrement, je pense quand même qu'il a très peu de pouvoir et il le sait. C'est pour ça que, à mon avis, il a du pouvoir peut-être par l'abstention. C'est pour ça que, effectivement, le fait qu'il n'a pas parlé du tout du problème Ukraine-Russie, on pourrait peut-être dire, là, il a été prudent et d'une excessive prudence parce que la Russie, c'est en même temps l'orthodoxie. C'est quand même malgré tout. Bon, l'Ukraine aussi, c'est l'orthodoxie. Mais à côté de la Russie, ça reste d'une certaine manière un bout d'orthodoxie très faible. Donc là, je me demande s'il ne veut pas ménager malgré tout ses relations avec Poutine, d'une certaine manière. On pourrait en tout cas avoir cette mauvaise pensée.
Et quant à sa visite en Turquie, dans les jours qui viennent, là, maintenant, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir un rôle pour la défense des chrétiens d'Orient, dont on sait qu'ils souffrent au-delà du supportable?
C'est-à-dire, je pense que c'est l'un des rares pays où il peut aller, l'un des rares pays musulmans, en majorité, où il peut aller en lui demandant éventuellement d'intervenir, de faire quelques médiations, je ne sais pas exactement laquelle. Et puis l'autre question intéressante quand même, c'est est-ce qu'il va dire un mot de l'islam, des musulmans, aux musulmans? Comment va-t-il le dire? Je ne sais pas. Parce qu'il s'est assez peu prononcé jusqu'à présent là-dessus. Moi, j'espère seulement qu'il n'aura pas une boulette comme Benoît XVI à Ratisbonne.
Oui, je ne me souviens plus exactement de la boulette, elle avait été, elle avait été monstrueuse et absolument terrible. Mmh. Écoutez, en tout cas, merci Jean-Louis Schlegel. Je rappelle que vous êtes un membre actif, ô combien, de la revue Esprit, que vous êtes éditeur, philosophe, sociologue des religions. Je remercie Anaïs Feuga aussi, notre correspondante à Rome, qui nous a fait vivre toute la journée sur France Inter, la visite du pape François à Strasbourg. Dans quelques instants, direction Ferguson aux États-Unis, où nous attend Frédéric Carbone. Il est 18h33, Macy Gray sur Inter. Sometimes you gotta dig in the dirty to get what you need. What I need is you. Oh, and I'm going all out to be with you. Striking inside of you. Does your thunder roll? Does the fire keep you cool? Oh, come a hurricane is coming for you. Yeah. Bang, bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says lie. Oh, yeah. Messi Gray sur Inter, il est 18h37 à Paris, 11h37 à Ferguson.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde, sur France Inter.
Et c'est donc la décision du grand jury de ne pas inculper le policier blanc ayant tué en août dernier un adolescent noir qui a remis le feu aux poudres dans la ville de Ferguson. Violentes émeutes la nuit dernière. Vous êtes sur place, Frédéric Carbone. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Il est donc un peu moins de midi chez vous. Quelle est l'atmosphère dans la ville à la mi-journée ?
Écoutez, ce qui frappe, c'est à la fois le côté assez désert de la ville. Très peu de monde, tous les magasins sont fermés. On est à quelques jours de Thanksgiving, la grande fête familiale. Et normalement, tout le monde va faire ses courses pour préparer Thanksgiving. Tous les supermarchés, tous les gros centres commerciaux sont absolument fermés. Très peu de monde circule. Alors quand on parle de Ferguson, c'est une ville de 20 000 habitants, les émeutes, les violences, c'est circonscrit à un périmètre assez réduit finalement. C'est deux avenues autour du poste de police, autour de l'endroit où Michael Brown a été tué. Et là, en revanche, c'est un périmètre complètement bloqué par la police. Ça ressemble à une scène de crime. On voit ces filets jaunes, ces bandeaux jaunes partout, à côté des quelques bâtiments, une dizaine, une quinzaine peut-être, qui ont été incendiés, une pharmacie, un salon de beauté qui est complètement parti en fumée, et ailleurs, des gens qui sont dans leur boutique aux vitrines brisées. Un calme pesant avec une seule question, évidemment, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, ce soir, dans les heures qui viennent.
Qu'ont dit les autorités si elles se sont exprimées? Est-ce qu'elles redoutent précisément que ça reparte cette nuit?
Les autorités, que ce soit le maire de Ferguson, que ce soit le gouverneur du Missouri, la première décision qu'elles ont prise, c'est de renforcer la garde nationale, la présence de la garde nationale à Ferguson. Il y a une des interrogations aussi sur ce qui va se passer ce soir, c'est quelle sera le mode opératoire de la police qui a frappé hier. C'est sinon la discrétion, en tout cas au début, la retenue qui a peut-être facilité quelques violences. La police avait sans doute très peur d'une bavure. On voyait beaucoup moins qu'au mois d'août dernier la garde nationale. Là, probablement, en termes de présence, en tout cas, c'est en train de changer. On voit beaucoup plus les tanks de la garde nationale autour de ces endroits sensibles dans Ferguson. C'est une vraie question ce soir. De quelle manière la police va-t-elle se comporter?
Est-ce que, Frédéric Carbone, vous qui êtes sur place, vous avez pu rencontrer à Ferguson des gens qui ont été sensibles malgré tout aux appels au calme à la fois de la famille mais aussi dans un registre totalement différent de Barack Obama?
Écoutez, je sais pas. Je pense que les gens qui voulaient manifester pacifiquement, protester vigoureusement mais pacifiquement l'ont fait. Et que ceux qui avaient décidé de casser ont cassé, avec deux catégories sans doute. Il y a des purs casseurs, moi j'ai assisté à des scènes de pillage qui étaient exclusivement de cet ordre-là, c'est-à-dire voilà, on fracasse une vitre, on prend 3-4 choses et on s'en va immédiatement. D'autres qui sont peut-être des groupes beaucoup plus politisés, radicalisés, mais je pense que les gens, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde. Je ne sais pas, hier, peut-être un millier de personnes autour du poste de police. Moi, j'avais vu avant pas mal de gens impliqués depuis 3 mois et qui avaient prévu des stratégies de désobéissance passive. Ils sont allés bloquer une autoroute. Personne n'en a parlé, évidemment, puisqu'on ne parle que des bâtiments partis en fumée. Donc, je pense que les gens sont venus faire ce qu'ils avaient l'intention de faire. La question, c'est qui maîtrise quoi que ce soit.
Ouais, la dernière question que j'aimerais vous poser, Frédéric, le fait que l'enquête se poursuive au niveau fédéral, est-ce que là aussi c'est un élément d'apaisement, peut-être pas à l'instant T, mais dans les jours qui viennent? Ça a été rappelé encore
peut-être,
plusieurs fois.
Peut-être. Oui, ça a été rappelé et il y avait eu un élément apaisant au mois d'août, après quand même une dizaine de journées d'émeutes. C'est quand Eric Holder, qui était à l'époque ministre de la Justice, il a démissionné après, était venu à Ferguson, avait passé toute une journée, avait rencontré énormément de monde, avait dit, un peu comme Barack Obama l'a dit hier soir, qu'il y a des problèmes dans la justice et dans la police aux États-Unis. Donc à terme, à moyen terme, ces choses-là passent. À court terme, je ne suis pas sûr du tout que cela ait un impact, d'autant que le temps de la justice fédérale est beaucoup plus long que celui de ce grand jury, qui était déjà exceptionnellement long. 3 mois pour des délibérations de grand jury, c'est très très long.
Merci Frédéric Carbone, en direct de la ville de Ferguson, où il est donc un tout petit peu moins de midi, 11h42 du matin très exactement. À suivre donc l'atmosphère à Ferguson toute cette nuit. Vous nous racontiez combien la présence policière avait été augmentée dans la perspective justement de cette nouvelle nuit. Merci encore Frédéric. Partout ailleurs, toujours en direct du Parlement de Strasbourg. Bonsoir Éric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Ah, ce n'était pas une journée comme les autres aujourd'hui au Parlement. L'intervention du pape, on en parlait tout à l'heure, a marqué de son empreinte les débats de la session plénière sur la politique migratoire.
Oui, on ne va pas revenir sur le contenu, vous avez quasiment tout dit avec Anaïs Fega et Jean-Luc Chagall, mais plutôt les conséquences sur les débats dans l'hémicycle et sur une image, une prestation de 25 minutes papale longuement applaudie. Standing ovation, 751 députés debout. Non, pardon, 750. Jean-Luc Mélenchon se tient à l'écart.
Il a été applaudi par des hypocrites qui font exactement le contraire, et ce sont les mêmes qui l'ont applaudi, qui votent des lois qui jettent les gens à la mer, qui refusent la distribution des suppléments alimentaires, et ainsi de suite.
Quand même, la dignité de la personne, la politique de l'emploi, qui respecte les conditions au travail, il y a des thématiques quand même qui parlent.
Mais bien sûr, mais a-t-on besoin du pape pour entendre parler de la nécessité de l'emploi? Faites venir ici le responsable de la CGT, il vous en dira autant. Le pape précédent, le pape Jean-Paul II, aussi prêchait contre les abus du capitalisme, etc., etc. Mais ce n'est pas ça sa principale caractéristique, car s'il s'agit d'entendre une parole contre le capitalisme, je préfère celle des partis progressistes qu'à celle du pape, dont ce n'est pas le rôle. Monsieur, est-ce que vous pouvez admettre un instant que cela soit choquant pour des gens comme moi? Comment se fait-il qu'ici on ne supporte pas d'entendre un communiste parler? Je ne suis pas communiste. Mais que l'on s'esbaudit et que l'on admire et que l'on applaudit quelqu'un qui prêche des valeurs aussi contraires à celles de l'humanisme.
Référence de Jean-Luc Mélenchon aux positions de la doctrine de l'Église sur l'avortement, l'euthanasie et le mariage gay. En demandant que la Méditerranée ne soit pas un grand cimetière, le pape exhorte l'Europe à traiter les candidats à l'immigration avec dignité. Et dans les débats qui se sont ouverts dans l'hémicycle, à chacun sa définition de la dignité. Pour l'eurodéputé Brice Hortefeux dans les rangs du PPE, l'Europe doit adopter une politique commune ferme, c'est-à-dire reconduire à la frontière automatiquement toute personne se présentant sans papier.
Je pense que la libre circulation dans la construction européenne doit être réservée aux citoyens européens. Ça signifie donc que un État peut accueillir qui il souhaite sur son territoire, mais que celui qui est accueilli sur son territoire ne doit pas avoir la possibilité, dans le cas des visas de court séjour, de se promener dans tout le reste de l'Europe et de voir de s'y installer par définition dans la clandestinité. Ce n'est pas sain et ce n'est pas digne. Et en même temps, il doit y avoir une politique européenne, notamment pour reconduire ceux qui viennent sur le continent européen sans en avoir l'autorisation.
C'est un élément nouveau là, Eric, cette proposition de visa à courte durée qui ne donnerait pas droit à une libre circulation dans toute l'Europe, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui.
Oui, c'est une proposition qui fait débat. L'idée de Brice Hortefeux est de laisser une personne avec un visa pour l'Allemagne en Allemagne et ne pas l'autoriser à venir en France, même avec un visa en règle. Un durcissement que ne partage pas Cécile Kyenge, l'ex-ministre italienne de l'intégration, aujourd'hui eurodéputée. Cette atteinte à la liberté de circulation dans l'espace européen pour des extra-communautaires en situation régulière la révulse.
Je trouve ça une idée qui n'est pas juste, puisque si on parle de libre circulation, on doit parler de libre circulation pour toutes les personnes qui sont en règle avec leurs documents, mais pour toute personne qui a la possibilité d'arriver dans l'Europe. Mais il ne faut pas confondre libre circulation avec la criminalité, avec la délinquance, puisque je crois que ce sont deux concepts différents. Alors l'Europe doit avoir le courage de pouvoir s'affirmer sur un thème qui est très important, qui est celui de la libre circulation. Le problème qui se pose, ce n'est pas celui de pouvoir renvoyer les personnes dans des pays d'origine, là où plus souvent il y a la guerre, il y a des conflits, mais c'est la possibilité de pouvoir gérer les problèmes. Et je crois que c'est là la réponse la plus importante, comme l'a dit le pape aujourd'hui, la personne au centre de chaque projet politique.
Et l'Italie d'ailleurs profite, Eric, de sa présidence et de la visite du pape pour impliquer une Europe défaillante sur le thème de l'immigration.
Simplement, Nicolas, parce que les Italiens ont géré seuls Lampedusa. Et Venise, dont on ne parle jamais, les immigrés arrivent aussi dans les cales de bateaux sur l'Adriatique. Ils sont très nombreux aussi de ce côté-là. Et face à cet afflux, ces drames, ces noyades, les Italiens se sont retrouvés un peu seuls. Encore récemment, l'opération Mare Nostrum, qui consistait à déployer des moyens pour secourir les barques en difficulté, n'a pu être maintenue faute de budget. Les Italiens se sentaient là aussi un peu seuls. Ils impliquent donc les Européens dans l'opération Triton, 5 navires militaires, autant d'hélicoptères qui croissent en Méditerranée. Sandro Gozzi est le secrétaire d'État aux affaires européennes de Matteo Renzi.
Il faut sans doute travailler beaucoup plus autour du principe de solidarité et ceci demande un effort accru, pas seulement de l'Italie comme nous avons fait seuls jusqu'à maintenant, mais de toute l'Europe, parce que nous nous retrouvons pleinement dans les paroles du pape quand il dit que la Méditerranée ne peut pas être un cimetière. Moi, j'ai toujours dit qu'elle ne peut pas être un cimetière de l'indifférence, de l'égoïsme des Européens.
Cette volonté politique, elle ne semble pas encore s'affirmer.
Nous pensons que l'opération Triton est un pas en avant. À côté de cela, il faut travailler beaucoup plus pour une véritable politique commune et beaucoup plus sur les dialogues avec les pays d'origine et de transit des flux migratoires. Et d'après nous, l'opération Triton, ce n'est que le début. Et ça ne doit pas rester qu'un début.
Problème, Triton se révèle plus une mission de surveillance et de contrôle qu'une opération de sauvetage. Entre les deux, Nicolas, le cœur de l'Europe balance toujours. Et en dépit de la visite papale, c'est bien deux conceptions qui s'affrontent encore.
Éric Valmire, merci. Vous étiez, je le rappelle, en direct du Parlement de Strasbourg. La Fabrique du Nouveau Monde, bonsoir Dominique André.
Bonsoir Nicolas.
Et on l'entend derrière nos voix, ce soir c'est un pays cher à votre cœur, la Chine.
Oui, nous sommes à Shanghai avec Vladimir Durovitch, un jeune Français d'origine tchèque qui vit à Shanghai. Mais l'aventure chinoise a commencé pour lui sur les bancs de l'école centrale à Paris, où il a appris le chinois. Il se souvient très bien de son premier cours, le professeur avait écrit une phrase sur le tableau avec 5 caractères qui sont restés gravés dans sa mémoire.
Je me souviens encore très bien de cette phrase qui s'appelait « Wo shuo zhongguo hua », qui veut dire « je parle chinois ». Et je me souviens essentiellement du mot « zhongguo », qui veut dire « l'empire du milieu ». Donc le caractère « zhong », par exemple, qui veut dire « milieu », c'est un carré avec un trait vertical au milieu qui le traverse dans le milieu, justement, et donc qui veut dire « milieu ». Graphiquement, on peut découvrir ça. Et on va dire que c'était assez fondamental comme premier cours, puisqu'en fait, je pense que j'ai dû passer une bonne partie de mes études d'ingénieur à faire du chinois.
Alors en 2001, donc Vladimir débarque à Shanghai, la capitale économique de la Chine. Il découvre une ville, mais aussi un pays qu'il n'imaginait pas du tout. C'est vraiment le choc culturel.
C'est une révélation, parce qu'en fait, il y a un imaginaire peut-être lié aux films qui sont contemporains de mon arrivée en Chine, comme In the Mood for Love, qui parle d'une Asie voilà, avec des vieilles ruelles, des maisons avec des toits un peu courbés, etc., des maisons en bois, on imaginait. Mais effectivement, quand on arrive à Shanghai, on est dans une mégalopole et on sent... je me souviens très bien d'arriver à Shanghai et de voir la route était en construction, en train de faire le macadam, le shopping mall, les grands immeubles, tout cet environnement beaucoup plus actif que ce que j'imaginais. J'avais une vision plus romantique de la Chine en fait en y arrivant.
Voilà, il avait la vision « In the mood for love » de la Chine. Mais c'est là que débute son aventure professionnelle.
Oui, et Vladimir a toujours en mémoire ces 5 caractères qui sont vraiment en filigrane. À cette époque, les entreprises occidentales, surtout à Shanghai, cherchent à se faire connaître par les Chinois qui achètent. Mais pour ça, il faut avoir un nom en chinois. Il faut avoir une marque en chinois. Vladimir ouvre donc sa société. Ils sont trois jeunes qui parlent couramment le chinois et qui pensent surtout en termes culturels pour que les Chinois aient envie d'acheter des produits occidentaux.
Ne pas avoir de nom chinois, c'est le plus gros des problèmes parce qu'on n'offre pas aux Chinois la capacité d'ancrer la marque dans leur univers mental, de bien véhiculer le sens de la marque. Par exemple, HSBC, le sens de HSBC, c'est Hong Kong et Shanghai Bank Corporation. Donc, c'est des noms qui existent et qui représentent quelque chose pour les Chinois. Mais le nom chinois de HSBC, c'est Huifeng. Il n'y a aucune référence à Shanghai. Huifeng, le nom de HSBC, veut dire juste amasser la prospérité. Donc un programme positif, au lieu de reprendre la traduction littérale évidente, on donne un nouveau sens à la marque.
Alors si vous deviez traduire France Inter en chinois?
France Inter, c'est un challenge, parce qu'en fait, on entend Inter, on pense à, et surtout dans le cadre de cette émission, on pense à international. Mais justement, je pense que c'est que le sens d'Inter, il y a aussi un sens de relation qui serait intéressant pour les Chinois, parce que ce serait une façon de s'adresser à eux, c'est de vraiment mettre l'accent sur interrelation. Donc peut-être France, bon, Fago, pour Inter, quelque chose qui est lié avec le mot lien, qui veut dire relation. Et après, je serais curieux de fouiller un peu plus dans vos archives et dans votre histoire pour trouver un deuxième caractère pour articuler ce sens d'inter et essayer de trouver aussi des référents chinois pour lui donner quelque chose de particulier pour la Chine.
Donc ça pourrait donner, redites-le nous, Dominique André.
Faguo Lien.
D'accord, ça ce serait une traduction possible de France Inter. Son entreprise connaît un sacré succès.
Oui,
hein.
C'est l'une des 5 premières entreprises dans le monde aujourd'hui à créer des marques en chinois. Ils étaient 3 au départ, ils sont maintenant 50. Et alors c'est vraiment l'histoire à l'envers, puisque Vladimir s'est installé en Chine, il y vit depuis 10 ans, et il va maintenant penser à ouvrir un bureau en Europe.
Alors donc, merci Dominique. D'abord, merci Dominique André. Et vous écoutez bien...
Faguolien.
Il est...
Liodian ou Shese Fanzhong.
C'est-à-dire 18h54. Merci encore.
Alors, on va commencer la négociation.
Alors ça, on va y venir, mais...
On va reprendre la négociation.
Mais ce n'est pas encore fini.
Ça ne fait que commencer, l'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Visite demain en France du président égyptien Sisi, élu démocratiquement dans un pays qui ressemble de moins en moins à une démocratie.
Il y a quelques bonnes nouvelles au bord du Nil et le maréchal président Al-Sisi devrait en parler mercredi à Paris, deuxième étape de sa première tournée en Europe. Après 3 ans de turbulences politiques, le tourisme recommence à vivre. C'est un facteur clé de l'économie du plus grand des pays arabes, 86 millions d'habitants. Les investisseurs étrangers reviennent aussi prudemment, mais ils commencent à revenir. Pour le reste, c'est la chape de plomb, un silence de mort au bord du Nil, la suppression de toutes les libertés publiques, la fin du moindre débat politique, le retour de l'arbitraire policier avec son cortège de tortures et de mauvais traitements, la mise sous tutelle de la justice, plusieurs milliers, sinon plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques de tous horizons, frères musulmans, islamistes, centristes, libéraux, socialistes. Les directeurs de journaux et de la télévision viennent de signer une charte dans laquelle ils s'engagent, ouvrez les guillemets, à ne publier aucune information pouvant nuire à l'État, fermez les guillemets. La presse, la dite presse, entretient cette faribole d'un complot ourdi contre l'Égypte par l'Europe, les États-Unis et Israël, au service des frères musulmans, comme chacun sait. Voilà ce que rapporte sur notre blog, tout juste de retour du Caire, notre confrère Alain Grèche. La plupart des ONG étrangères, associées de près ou de loin à la défense des droits de l'homme, ont été forcées de mettre la clé sous la porte. Leurs militants, étrangers ou égyptiens, ont été incités à quitter le pays. Certes, l'Égypte traverse des temps difficiles. Certes, élus démocratiquement, les frères musulmans avaient largement prouvé leur incapacité totale à gouverner quand ils ont été renversés par le maréchal Al-Sisi en juillet 2013. Certes encore, le pays affronte dans le Sinaï une rébellion djihadiste armée qui se revendique maintenant de l'État islamique. Et son voisin libyen est en voie d'implosion. Mais quelle régression dans la dictature! Quel enterrement des idéaux de la révolte de la place Tahrir de 2011! J'en ai assez. Cela n'a aucune utilité. Il n'y a pas de justice. La victoire ne viendra plus. Nous nous mentons à nous-mêmes pour pouvoir vivre. » Voilà ce qu'écrivait le 13 novembre une Égyptienne, militante de la génération Tahrir, pour clore son compte Facebook. Quelques instants plus tard, Zeynab Al-Mahdi s'est donné la mort. Elle avait 22 ans.
Merci Alain Frachon. Il est 18h57. Et bonsoir à Stéphane Leneuf.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes en direct de Strasbourg pour questions sur l'Europe.
Eh bien, tout à fait. Avec un chiffre ce soir, Nicolas, qu'il faut retenir, 300 milliards d'euros. C'est le plan d'investissement que Jean-Claude Juncker présentera demain ici aux parlementaires européens. Un plan dans le brouillard pour certains, alors que pour d'autres, il s'agit d'une vraie nouvelle politique d'investissement dans l'innovation pour relancer la croissance, favoriser l'emploi. Mmh. Alors un plan qui laisse quand même perplexe. Hein. La première des grandes questions, c'est où trouver l'argent, surtout pour quel projet et à quoi vont servir tous ces financements dont on nous parle. Alors bien sûr, j'attends vos questions dès 19h20 avec mes invités ici au Parlement européen. Un numéro à retenir, le 01 45 24 7000.
Merci Stéphane, rendez-vous à 19h20, le journal dans deux minutes.